S'il vous amoche, vous les amochez. S'il vous tue, vous vous relevez.
Microclimat.
Vous écoutez Microclimat, c'est sur les ondes de Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM. Et à présent, c'est un Sevenol qui s'empare des ondes. Vous avez rendez-vous avec Escapade Info, l'émission d'info de Radio Escapade, une radio en Cévennes, qui est cette semaine à Paris pour 4 émissions spéciales à l'occasion de la COP21.
Écoutez, faites très attention.
Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais.
Dans ce pays, la vie d'un homme tient un fil, un bon réseau d'informations fait beaucoup de fils.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Escapade Info, lundi 7 décembre 2015, une émission de Radio Escapade animée par Pierre.
Vous êtes sûr d'avoir compris?
Quand je comprends mal, c'est que je ne veux pas comprendre.
Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre TGV arrivera à son terminus. Paris-Gare de Lyon, Paris-Gare de Lyon, terminus de ce TGV.
Bienvenue à Paris, je vous y embarque toute la semaine jusqu'à jeudi. En ce moment, au Bourget, les négociations internationales sur le climat de la COP21 battent leur plein. Samedi, le 12 décembre, il en sortira un accord, dont on a déjà la certitude qu'il n'apportera rien sur le nécessaire changement de modèle de société face au réchauffement climatique. Moi, je vous proposerai plutôt d'aller à la rencontre de militantes et militants du quotidien et de plus long terme, réunis en multiples endroits de la capitale, en marge du grand raout onusien de cette COP21, pour proposer de réelles pistes de mutation des consciences et des actes. À Radio Escapade, nous avions pris la décision que je sois envoyé spécial à Paris dès cet été. Entre-temps, il y a eu les attentats que vous savez, le 13 novembre, et l'instauration de l'état d'urgence avec son lot de dérives autoritaires et répressives. Il en sera aussi, bien entendu, largement question tout au long de ces émissions spéciales.
Urgence sociale pour les chômeurs et les précaires à Londres. Urgence sociale pour les chômeurs et les précaires.
Nous sommes le samedi 5 décembre, premier samedi du mois de décembre, et traditionnellement à Paris, il y a, pour ce premier samedi du mois de décembre, une manifestation contre la précarité. Cette année, manifestation qui prend quand même un sens particulier en pleine COP21 et en plein état d'urgence. Je vous propose de la suivre.
Ouvrons les frontières, réchauffement climatique, l'assertion identitaire. Ouvrons les frontières, réchauffement climatique, l'assertion identitaire.
C'est une manifestation de chômeurs et de précaires. Et chaque année, j'ai fait partie des luttes des chômeurs dans les années 98 à Paris, un peu partout en France, mais bon, à Paris, c'est peut-être plus important. Et depuis, il n'y a pas grand-chose sur les luttes des chômeurs et précaires. Il y a de plus en plus de chômeurs et de chômeuses, mais les rangs des manifestations, des actions pour défendre les droits des chômeuses et des chômeurs, ils sont pas là, quoi. Les gens restent chez eux.
Et de ce point de vue, est-ce que la manifestation est plus importante ou moins importante que celle de l'année dernière?
Moi, j'ai demandé à quelques personnes. Moi, je suis arrivé un peu. J'avais démarré déjà, mais j'ai pas l'impression que c'est plus important que les autres années. Avec 250 000 chômeuses et chômeurs de plus chaque année, ça fait 1 million tous les 4 ans. Là, je regardais les chiffres. Dans les années 1970, on était à 700 000 chômeurs, quelque chose comme ça. Maintenant, on est à 6 millions et demi, catégorie ABC. C'est quand même énorme.
Et quelle solution vous proposez alors? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour résoudre ça? Surtout dans un contexte où c'est la COP21, on parle de changement, tout ça.
Mais par rapport au chômage ou par rapport à...
Par rapport au chômage.
Ben justement, les énergies alternatives, en Allemagne, on voit bien que ça a créé, je crois, c'est plus de 500 000 emplois en 10 ans, je crois. Parce qu'ils ont quand même mis de gros efforts sur les énergies renouvelables. Parce qu'on accusait les Allemands d'acheter de l'électricité en France et de l'électricité nucléaire. Alors ça paraissait paradoxal parce qu'eux, ils se débarrassaient du nucléaire, de l'électricité nucléaire, et ils nous l'achetaient à nous.
Et justement, puisqu'on parle de nucléaire, c'est quand même l'argument de l'industrie nucléaire en France, en disant des arguments en disant que ça crée des emplois.
Mais c'est complètement faux parce que... et puis en plus, y a, dans les emplois, quand une usine qui fabrique des mines antipersonnel, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est humain de vouloir garder l'emploi? Il faut trouver d'autres solutions quand même. Moi je veux mettre personne au chômage, mais en tout cas il faut trouver... on ferme une usine de mines antipersonnel et les gens, on les reclasse ou on leur donne une indemnité équivalente à leur salaire d'avant. Ça, c'est un peu de l'utopie parce que quelqu'un qui tombe au chômage maintenant, il perd déjà 40%, je crois, au départ. Et il tombe vite après dans les minima sociaux, des misères, quoi.
Toi, la même façon pour soutenir... ceux qui n'ont pas de papiers pour avoir les papiers, et ceux qui n'ont pas de travail aussi, pour gagner le travail. Il y a d'autres qui travaillent qui n'ont pas de papiers aussi. Donc en France, bon, tu travailles, tu n'as pas de papiers. Hein. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas de papiers et qui ne travaillent pas. Il y a tout là. Donc il faut qu'on essaie de les aider pour qu'on fasse des manifestations avec les autres là. Bon, faut qu'on soit unis pour qu'on puisse avoir la force. Pour régulariser tout le monde, ceux qui n'ont pas de papiers, ils gagnent des papiers, ceux qui n'ont pas de papiers, ils travaillent, ceux qui n'ont pas de papiers aussi, de gagner des travail. C'est ça notre but de manifester.
Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de voir cette manifestation?
Oui, on est bien satisfait, mais il y a beaucoup de monde, c'est bon, on est bien satisfait.
Et est-ce que vous êtes en train de distribuer des tracts? Donc qui dit en titre, nous sommes tous des réfugiés économiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le fond de ce tract?
Bon, ce tract, bon, ça, on discute, ça, c'est pour l'association.
Uh-huh. Votre association, c'est quoi?
C'est 75, coordination 75. Donc ça, on partage ça pour si on fait les déplacements pour partir manifester en Europe, ailleurs. Donc on va payer les dépenses à manger, à payer des carburants. C'est ça, c'est pour ça qu'on a fait des t-shirts, on vend des t-shirts avec des journaux. Pour ça.
Pour soutenir.
Pour soutenir, oui. Si on va faire le déplacement, si on va manifester en Italie, en Europe ou bien en Espagne, donc le déplacement à manger et plus de carburant, ils sont tout, donc ça sort là-dedans.
Ah, parce que vous faites des manifestations dans toute l'Europe?
Oui, on a fait des manifestations. Masse européenne en 2012. Donc on a été à Bruxelles, Suisse, Allemagne, Belgique, Italie. Bon, avec etc. Donc on a...
et vous travaillez?
Hein?
Vous travaillez?
Pour l'instant, je ne travaille pas.
D'accord. Mais vous avez travaillé déjà?
Oui, j'ai travaillé. Avant, j'ai travaillé, mais maintenant, pour l'instant, j'ai pas eu de boulot.
Qu'est-ce que vous faisiez comme travail?
Bon, moi, j'ai fait les bâtiments, j'ai fait les nettoyages, j'ai fait les démolitions. Hein? J'ai fait la manutention aussi. Donc, j'ai fait beaucoup de boulot ici. Hein?
Vous venez d'entendre quelques témoignages dans la manifestation du premier samedi de décembre, traditionnellement comme manifestation contre la précarité à Paris. Voici quelques slogans glanés au hasard, assignés à résistance, climate justice égale justice sociale, une manifestation qui n'a rassemblé que quelques centaines de personnes. C'était la première manifestation autorisée depuis le début de l'état d'urgence. On a pu y retrouver différentes organisations syndicales, la CGT, Solidaire, la CNT, des associations de chômeurs, des partis politiques, spécifiquement d'obédience libertaire. Et puis on notera la présence de militants écologistes et notamment des Amis de la Terre, et qui clairement portaient des slogans qui affirment que cette question climatique et la question environnementale ne peut pas se séparer d'une question sociale et de justice sociale. Alors il y a un certain nombre de militants qui sont interdits de manifester, je vous en avais parlé. Ce sont 24 personnes assignées à résidence un peu partout en France, dont certains en région parisienne. Alors à présent, je vous propose le témoignage de Joël Domenjoud, recueilli par Nadia de l'émission L'Actu des Luttes sur Fréquence Paris Pluriel. Il est assigné à résidence pour le seul fait d'avoir participé à des réunions de préparation pour les actions militantes de la COP21.
Sur l'état d'urgence, dès le moment où il a été décrété, c'est un truc que j'ai dit à tout le monde autour de moi, j'ai dit ça sent vraiment très mauvais en fait, cette histoire d'état d'urgence. Et à partir du moment où il était évoqué que ça soit prolongé à 3 mois, enfin, c'était encore à ce moment-là une espèce de vision du pire. C'est de dire ils vont s'en servir contre la COP en fait. Et c'est tombé exactement comme ça en fait, ils s'en sont servis contre la COP. Ils ont assigné 24 personnes, je sais pas forcément qui c'est en fait. Moi, il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. Pour les Parisiens, je sais qui c'est. Pour les autres, j'ai pas trop d'idées qui c'est. Je sais pas exactement ce qui a été ciblé au final en fait. En tout cas, l'idée c'était, je pense dans l'histoire, de nous assigner pour que ça handicape l'organisation globale, logistique, enfin, pas mal de choses dans lesquelles on pouvait être les uns et les autres engagés, en fait. Je sais pas exactement à quel niveau ça jouait, mais l'objectif était clairement là. Hein. Et moi, c'est ce qui est désigné, c'est assez marrant la formulation, c'est à participer à des réunions de préparation de la COP21 dans un squat. C'est particulièrement inquiétant ce genre de choses, ça n'arrive à personne. L'autre motif, c'est évidemment être un leader de la mouvance contestataire, radicale, etc. C'est une case, quoi. Ça, on a l'habitude, depuis Michel Agnew-Marie, on nous met dans des cases. Ça justifie en soi-même que je sois assigné à résidence, puisque à partir du moment où on m'a mis dans la case, ça veut dire que c'est la case qui elle-même justifie le degré de dangerosité et qui, du coup, justifie entièrement le dispositif. Et là, en l'occurrence, c'est un dispositif qui passe même pas par un tribunal, qui passe pas par une case judiciaire. En gros, on n'a pas le moyen de se défendre, donc on peut même pas s'expliquer. On n'a pas la possibilité de démonter ce discours-là. Si on ferme notre gueule concrètement, on n'existe pas. Parce qu'on n'a pas eu de moment où on a pu être jugé et exprimer notre avis. On peut pas juridiquement le combattre, puisque mes référés et ceux des autres ont été rejetés par ordonnance directe. Sous prétexte que, étant donné que moi et d'autres ne travaillons pas, on a tout notre temps pour aller pointer au commissariat, et on a tout notre temps pour passer notre journée à vaquer à nos occupations dans notre commune. Et donc finalement, toute l'activité militante et tout ça à côté, c'est ça qui est visé. D'imaginer que ça puisse handicaper éventuellement une vie professionnelle, ça peut être un argument. Mais par contre, que ça puisse handicaper une vie militante, c'est justement ce qui est visé. Donc du coup, c'est pas invoqué, c'est pas une nuisance à nos libertés fondamentales. Ça ne nuit pas à nos libertés. Ce que j'avais invoqué avec Muriel, la copine avocate qui a porté le référé, c'était liberté de manifester, liberté de circuler, qui sont deux droits fondamentaux de la Constitution, en fait, de la Déclaration des droits de l'homme. Bon, après, c'est des grands dispositifs, mais de fait, c'est des libertés fondamentales qui ont été définies et qui peuvent être invoquées, donc on l'a fait. Et je me faisais pas beaucoup d'illusions. Hein. En vérité, à partir du moment où j'étais assigné, je me suis dit ils sont capables de faire beaucoup de choses et ils vont sûrement pas revenir sur... Et les pressions politiques qui vont être exercées, y compris sur les juges administratifs, seront suffisamment fortes pour qu'il y ait pas de chance que nos référés aboutissent. Sinon, ça serait remettre en cause qui ? La personne qui a signé notre papier, c'est-à-dire Bernard Cazeneuve, en fait. Donc ça le remettrait immédiatement en cause, ça voudrait dire que lui, il a commis une grave erreur administrative qui enfreint nos libertés. Et donc ça remettrait en cause l'état d'urgence lui-même, puisque c'est dans le cadre de l'état d'urgence en fait que c'est fait. Et de la même façon, l'interdiction de manifester, bah, c'est ce que j'avais attaqué par référé la semaine dernière, parce que moi, ça handicapait les convois des ZAD. Enfin, ça empêchait les convois, c'est ce qui était invoqué contre les convois des ZAD pour qu'ils puissent arriver. Donc moi, c'est vraiment dans cette idée-là que je l'ai fait, 48 heures à l'avance, en me disant, ça va tomber pile au moment où les convois vont arriver en Île-de-France. Donc si c'est jugé dans les 48, c'est bingo, et ça fait tomber l'interdiction de manifester pour l'ensemble des choses qu'on prépare depuis des mois, et qu'on nous a purement et simplement confisqué en disant c'est interdit, état d'urgence. C'était faire un bon gros pied de nez à tout cet état d'urgence qui est utilisé comme une facilité pour évacuer tout ce qui était gênant en fait en contestation sociale. Bah, le rejet de mon interdiction de manifester, c'était dans le cadre de l'état d'urgence, l'interdiction de manifester ne contrevient pas aux libertés fondamentales. Or, le droit de manifester, c'est une liberté fondamentale aussi, normalement. Donc, double rejet. Je peux aller à l'étape suivante, je peux aller au Conseil d'État, c'est ce que je fais. Mais j'y vais pas parce que je pense être libéré, parce que j'ai un espoir là-dessus. J'y vais juste parce que c'est un acte politique de dire « je vais au Conseil d'État ». Et parce que je vais aller au plus haut du truc, pousser la logique jusqu'au bout, et montrer que, étant donné que je n'ai pu me défendre nulle part dans ces deux semaines, étant donné que j'ai pu à aucun moment faire valoir mon avis autrement que en le prenant comme ça médiatiquement et en m'exposant publiquement, j'ai été exposé publiquement avant de le choisir, donc du coup je l'ai assumé ensuite. Du coup, ma logique là, c'est de dire, voilà, vous voyez, je vais être jugé, le Conseil d'État ne va prendre sa décision qu'après que je sois libéré, en fait. À ce moment-là, il me reste quoi? Il me reste juste l'action politique, en fait. C'est m'exprimer, c'est ce que je fais là avec les Café Cop, c'est de dire un peu, j'ai pas l'intention de me taire, j'ai pas l'intention de disparaître. Et puis après, bah, c'est joindre ma voix aux autres assignés, s'ils veulent exprimer aussi la leur, et à ce moment-là, dire, on récuse complètement ce dispositif, en fait.
Prenons garde, il prospère. Pendant que l'on regarde ailleurs,
voilà, voilà que ça commence.
Partout, partout, sur la douce France,
voilà, voilà que ça commence.
Partout, partout, partout ils avancent.
Au Grand Palais, jusqu'au 10 décembre, sont installées les solutions COP21. Il s'agit d'une série de stands tenus par de grandes multinationales telles Veolia, Engie, Avril ou encore Coca-Cola. Vendredi, les militants du Toxic Tour ont voulu dénoncer la mise en exposition de fausses solutions. Ces grandes entreprises, responsables de catastrophes écologiques, profitent du Grand Palais et de la COP pour faire leur greenwashing. Très rapidement, des policiers en civil malmènent militants et journalistes de toute nationalité jusqu'à un preneur de son de France 3 et une journaliste de l'AFP. Tout le monde est éconduit dehors où un militant se fera même déloger d'un lampadaire pour avoir déployé une banderole. Sylvain Angerand, des Amis de la Terre.
Nous allons expliquer ici ce qu'on ne peut pas expliquer en face des entreprises. C'est une situation qui est inacceptable. Nous voulons pouvoir donner le double discours. Ici, il y a par exemple une entreprise comme Coca-Cola. Coca-Cola est responsable de graves problèmes sur d'accaparement d'eau partout dans le monde. Coca-Cola a créé une usine en Inde et cette usine utilise près de 300 litres d'eau par jour. Cette usine, qui est située dans l'état de l'Uttar Pradesh, a été fermée par le gouvernement parce qu'elle prive les gens d'eau. Coca-Cola a inventé une autre réponse. Sa réponse, c'est la compensation eau. Pour chaque litre d'eau utilisée en Inde, Coca-Cola finance la restauration d'un projet ailleurs dans le monde. Par exemple, Coca-Cola finance aujourd'hui la restauration des olives en Canard. Toutes les entreprises qui sont ici, nous aimerions pouvoir discuter, donner notre point de vue de façon parfaitement pacifique. Donc il faut savoir ici que les entreprises ont payé un droit d'accès pour être ici et que dans ce droit d'accès, cela inclut des contacts avec les négociateurs. C'est le problème qu'il y a. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est que le fait que les entreprises puissent se payer un droit d'accès pour parler aux négociateurs, cela pollue les négociateurs. Nous avions amené avec nous des personnes qui voulaient témoigner des impacts dans le pays du Sud de la justice climatique. On leur a interdit
interdit l'accès.
Expliquez.
On va pouvoir se déplacer, on est figé ici. Voilà.
C'est absolument scandaleux. Les négociations n'avancent pas, on nous fige ici et pendant ce temps-là, les entreprises peuvent continuer de défendre ce qu'elles ont à dire. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie? Nous voulons pouvoir avancer, s'il vous plaît. J'aimerais savoir un peu ce que nous proposent ces entreprises. Je suis très curieux de leurs solutions. Ah, peut-être on peut.
J'y sais en bloc, hein.
Ok, les gars.
Nous sommes encerclés?
Oui, on est encerclés. Ouais.
Ah, d'accord.
Pour quelle raison?
On est 10. Hein. Pourquoi nous sommes encerclés, s'il vous plaît? Vous êtes plus nombreux que nous? J'aimerais bien avoir une réponse. Excusez-moi, je suis une citoyenne. Pourquoi enfermer les journalistes et les visiteurs du salon, messieurs? Nous sommes entrés, on nous a fouillés, nous ne sommes pas dangereux, nous sommes en train de visiter.
Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On aimerait bien pouvoir discuter. Écoutez, en plus, les choses étaient claires. Nous avions annoncé que nous venions. Vous savez pas. Vous saviez parfaitement que nous venions. Le lobby tour a été annoncé publiquement. Le danger, c'est pas nous. Le danger, c'est eux. Le danger, c'est pas nous. Le danger, c'est eux. Le danger, c'est pas nous. Le danger, c'est eux. Laissez-nous sortir! C'est un scandale, on aimerait simplement pouvoir avancer. Les entreprises qu'elles sont là, elles ont acheté leur possibilité de parler.
La liberté d'expression en France, c'est ça?
Témoigner!
Liberté!
Je m'appelle Noman. Et je travaille pour le collectif Œil et pour Fumigène Magazine. Donc moi je suis photographe, je suis rentré à l'intérieur pour voir ce qui allait se passer. À l'intérieur, il faut savoir qu'il y avait peu de monde par rapport à la queue qu'il y avait et beaucoup de policiers en civil qui surveillaient toute la zone. Et en fait, lorsque les délégations des peuples autochtones ont commencé à chanter et à sortir des petites pancartes pour montrer leur désaccord avec la politique d'Engie notamment, ils se sont fait totalement encercler par des policiers en civil qui les ont attrapés, plaqués au sol, sortis de force. Et malgré le fait qu'il y avait des journalistes internationaux et voilà, il y avait des grands médias, on a été sortis. Et même moi, en tant que journaliste, j'ai été sorti pendant que je faisais une photo. Ils sont arrivés à 3, ils m'ont attrapé, ils m'ont bloqué 2 heures avec d'autres médias.
Si tu aimes le Green Washing, t'as dans tes mains. Si tu aimes le Green Washing, si tu aimes.
Audrey Arjoun de Peuple Solidaire.
Je pense que l'action était positive parce que tous les militants ont répondu de façon non violente et pacifique. Nous étions juste venus dénoncer les faux discours des multinationales qui sont présentes à l'intérieur. Nous avons été ni agressifs, ni malpolis, ni insolents. Mais la réaction policière et de la sécurité nous a choqués, clairement, nous et les journalistes qui étaient présents avec leurs cartes de presse pour la liberté d'expression aujourd'hui en France. On nous parle d'état d'urgence, mais on se demande dans un espace privé avec des militants qui portent des messages politiques, mais de façon la plus pacifique possible, qu'on nous empêche de nous exprimer à ce moment-là. Non, l'état d'urgence ne fonctionne plus, c'est de l'état d'urgence, c'est d'abord climatique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est mobilisés. Les gens qui sont venus aujourd'hui, c'est des militants français, européens, mais c'est aussi des représentants des communautés qui sont directement impactés par les activités des multinationales qui sont présentes dans ce grand palais et qui sont justement très bien placés pour pouvoir dénoncer leurs faux discours. Donc c'était des personnes qui venaient d'Amérique latine, des populations indigènes, de Gambie, de Mozambique, d'Australie ou des États-Unis, des communautés qui vivent près des mines de charbon qui sont financées par une partie des entreprises à l'intérieur. Ce sont des populations qui ont été déplacées à cause de la production des agrocarburants, par exemple par Avril Sophie Protéol, et qui sont venus aujourd'hui essayer de témoigner en fait, et complètement dénoncer finalement les mensonges de ces entreprises qui se présentent dans le cadre de la solution, de la plateforme solution COP21. Il est temps de dénoncer ces faux discours, que ce soit politique ou par les multinationales.
Le son de cette action au Grand Palais a été enregistré par Reporter pour les deux premiers témoignages et par Stéphane Trouille pour le second témoignage. Que vous soyez sur Radio Escapade, sur Fréquence Paris Pluriel ou sur Radio Vassivière, vous écoutez Escapade Info, émission spéciale à Paris à l'occasion de la COP21. On arrive au terme de cette émission, je vous propose de fermer la boutique avec le son de la Pike War, un combat de vélo-char bricolé façon stock-car. C'était un spectacle à voir au Freegan Pony, un resto vegan squat sous le périphérique parisien. C'est dans ce lieu underground que je vous laisse. Bonne suite sur les ondes et à demain, même heure, même antenne.
Oh!
s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas.
Je roule sur la marge, je vis en parenthèse. L'encre coule sur la page, je repars en 16. Je marche, puis seul dans la foule. J'ai mon héritage sur l'épiderme. Ma tour 10 étages, j'écrivais ses viternes. Avancer sans la virgule, avec nos accents aigus. Ou la montée au circule, ma voix sans le vécu. L'écran allume les passions, c'est tension. Comment tu veux qu'on se comprenne quand c'est TF1 qui fait les présentations? Des points d'interrogation, est-ce qu'on peut blâmer la misère? Partout la crise a besoin de bouc émissaire. Un retour à Babel, temps passe trop vite, j'écris. Conflit de civilisation, à qui profite le crime? La raison manque à l'appel, on sait même plus qui a tort. La religion fait diversion pendant qu'on chute à l'appel. Je saute le pas, les drames, faudra devancer. Éteindre le feu avant que ça crame et corriger les fautes de français.
On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas.
Solitude plurielle, dans ces métropoles jumelles. À trop grailler le gravier, on oublie le goût du miel. Vision d'un monde, couleur touche de clavier. La mélodie sonne faux, comme tout ce qui sort de leur bouche. Ça sent le fauve, sans le pavé de mon enfance. On était blanc, noir, arabe, c'est pas que j'insiste. Dès le bac à sable, l'histoire commence comme une blague raciste. Nos vies conjuguent, les cultures s'entrechoquent. On juge, on enterre le passé, au futur, ce que chantent les chocs. Et Marianne radure nos thèses. Moi j'ai l'impression que nos raps sont des pansements sur une prothèse. La température grimpe, la justice fait tapisserie. On est passé, touche pas mon pote, à islam et pâtisserie. Derrière les murs, entre guillemets, tu comptes les points de suspension. Pareil qu'à ça t'es prédestiné, vu tes origines sous tension. Chaute le pas, les drames, faudra devancer. Éteindre le feu avant que ça crame, corriger les fautes de français.
On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas, on se connaît pas. M'entends-tu quand je te parle? Me suis-tu quand je pars? Me ressens-tu quand je te palpe? Me vois-tu?